Camillo, on garde nos questions donc pour la fin. Là, on va accueillir Christophe Herbert. Donc, Christophe est psychologue clinicien et coordonnateur de recherche au laboratoire de recherche sur les psychotraumatismes. Il est aussi membre du comité de gestion de l'Axe Internet et Santé et il va nous présenter un travail qui est le fruit de leur recherche menée avec Alain Brunet, qui est également à l'Institut universitaire Douglas, sur l'utilisation d'Internet en santé mentale, un petit peu un tour d'horizon avec les avantages et les limites.
Bonjour, donc je vais tenter de faire en un temps record de présenter les différentes utilisations de l'Internet en santé mentale, donc avec certains avantages et certaines limites. Ça fonctionne. Parfait. Donc, que ferions-nous aujourd'hui sans l'Internet? Moi, j'ai des difficultés à imaginer qu'un jour, je vais devoir expliquer à mon fils qu'il y avait une vie avant Internet. Depuis 1990, donc l'Internet, enfin le World Wide Web a été créé en Suisse. Et donc, depuis 20 ans maintenant, au bout de 20 ans, nous avons 1,7 milliard de personnes qui sont connectées à Internet dans le monde. Et c'est un chiffre qui ne cesse de grandir. Soit ça fait quand même un quart de la population mondiale. Au Canada, nous sommes bien lotis puisque nous sommes donc le troisième pays ici le plus connecté au monde, avec 84,5% de pourcentage de pénétration de l'Internet. Donc, qu'est-ce que c'est la santé mentale sur l'Internet? Il y a Lambosi et collègues qui ont donné une définition qui dit que ce sont toutes les formes de services qui sont délivrés par l'Internet, allant de l'information à la formation, en passant donc par les services directement rendus par les professionnels. Alors, les utilisateurs de l'Internet, c'est qui? C'est un petit peu tout le monde, en fait. Ce sont les personnes, d'abord, qui souffrent de troubles de santé mentale. Ce sont les familles, les proches, le public, les étudiants, les cliniciens et les chercheurs. Alors, les utilisations principales de l'Internet en santé mentale que nous avons répertoriées avec le professeur Alain Brunet, il s'agit de la recherche d'informations, tout d'abord, ensuite de recherche de diagnostics en ligne, de blogs, de discussions de groupes dans des réseaux sociaux, la thérapie en ligne, la formation en ligne, ainsi que maintenant la recherche avec l'aide de l'Internet. Donc, tout d'abord, au niveau de l'information, alors, on peut s'interroger sur le phénomène que c'est maintenant de googler sur ces symptômes, en fait, puisqu'on sait qu'il y a 61%, par exemple, d'Américains qui ont, en 2009, cherché de l'information sur leurs troubles parmi ceux qui avaient accès à Internet. Il y a 22% d'entre eux qui avaient cherché de l'information, enfin, qui cherchent de l'information sur la santé mentale. Alors, ça peut poser question, donc, pratiquement tout le monde va chercher des informations avant d'aller voir son médecin ou un psychologue sur ses troubles. Mais il faut savoir que toute l'information n'est pas bonne sur l'Internet et que nombre d'études sur chaque trouble psychopathologique le montrent. Il y a à peu près 40% d'informations qui sont mauvaises, voire il y a une étude qui a montré qu'il y avait 6% d'informations qui étaient dangereuses pour les troubles anxieux sur l'Internet. Donc les gens, par rapport à leur recherche sur Internet, sont assez peu critiques. C'est-à-dire que généralement, ils vont regarder principalement l'aspect du site web, et ce sera principalement par l'aspect du site web qu'ils vont définir si oui ou non l'information est fiable. Il y a 39% des Américains qui ont cherché donc l'an dernier des informations aussi sur Facebook ou MySpace, et 12% qui ont cherché l'information en santé sur Twitter. Ça, on assiste peu à peu, en fait, à un déplacement. Avant, les gens cherchaient l'information en santé mentale sur des outils tels que Google. Maintenant, ils cherchent de plus en plus une information spécifique sur des sites de réseaux sociaux, en allant carrément trouver d'autres personnes qui ont les mêmes symptômes qu'eux pour échanger sur leurs troubles. Alors, il y avait aussi une autre information importante, puisqu'il y avait quand même 58% d'Américains qui avaient dit dans une enquête qu'ils avaient été influencés par ce qu'ils avaient vu, en fait, sur le web, au niveau de décision de consulter ou non. Les sites web en santé mentale sont populaires. Par exemple, le site américain sur le trouble de l'anxiété reçoit environ 5 millions de visites par mois, ce qui est vraiment énorme. PsychCentral.com a été aussi élu par The Time Magazine l'un des 50 meilleurs sites web en 2008. Il y a aussi d'autres sites qui sont en train de grandir, comme des sites comme Rate Your Therapist, où il faut, où, en fait, on regarde si son thérapeute ou celui qu'on veut choisir est bien noté ou pas. Alors, la qualité de l'information, une bonne qualité d'information sur Internet va être aidante, puisque ça va réduire de l'anxiété et ça va pouvoir permettre aussi d'aller consulter. On voit aussi de plus en plus parler de médecine participative, c'est-à-dire que les professionnels en santé mentale ou non doivent davantage tenir compte de ça et venir même à demander à leurs patients s'ils ont été chercher de l'information sur l'Internet et puis quel genre d'information, puisqu'on sait maintenant que pratiquement tout le monde va chercher de l'information avant d'aller consulter, mais pas peu de patients, en fait, vont en parler. Donc, c'est toujours mieux d'en parler. Et surtout quand on sait que 75% donc des sites web sur la santé ne vont pas donner leurs sources. Voilà. Alors, l'une des avenues pour permettre, en fait, pour savoir qu'on est sur un site web qui diffuse de l'information de qualité, ce sera le HON Code, par exemple. Ce sont des chartes international qui vérifie si oui ou non il y a une information de qualité sur le site web en fonction de des informations que l'on donne, si oui ou non on privilégie la référence donc après à un professionnel de santé mentale ou un professionnel de santé et également si on cite ses sources. Alors il y a aussi des personnes qui vont chercher un diagnostic en ligne. Alors, on sait qu'il y a peu de personnes qui consultent, qui ont un trouble de santé mentale et qui consultent. Donc, pour différentes raisons, que ce soit pour des raisons économiques, pour des raisons géographiques, par anxiété ou par peur de la stigmatisation. On sait aussi, donc, que l'Internet, ça pourrait permettre une détection plus rapide des troubles et donc de permettre, là aussi, une orientation vers des professionnels. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a de nombreux sites qui vont mettre en ligne une liste de symptômes où les gens se reconnaîtront dedans ou pas. Et de plus en plus, il y a des sites qui vont diffuser, comme un faux trauma, des pré-diagnostics où la personne pourra regarder si oui ou non elle a un trouble de santé mentale. Et si elle pense en avoir un, en tout cas, il y aura un conseil, et en tout cas, il doit avoir ce conseil, d'aller vérifier avec son médecin ou un thérapeute si oui ou non ce diagnostic est le bon. Donc ça pourrait être une avenue intéressante en termes de santé publique, mais aussi en cas d'événements majeurs comme ce qui s'est arrivé le 11 septembre. C'est-à-dire quand il y a un événement, par exemple, traumatique qui va atteindre des milliers de personnes en même temps et donc il va y avoir un gros besoin de ressources en santé publique. Alors bien sûr, il faudra faire attention à la façon dont on définit ce trouble et puis à la façon dont on présente le diagnostic pour ceux qui vont mettre des diagnostics en ligne sur le site, sur un site web. Il y a aussi des tests qui ne sont pas valides, donc on peut très bien penser qu'on a un trouble alors qu'on n'en a pas. Et il y a des gros risques quand même, comme induire un effet adverse où la personne va vraiment penser qu'elle a le trouble et va commencer à s'inquiéter. On peut aussi voir un autre risque qui est la cyberchondrie. Donc c'est l'hypochondrie, mais tout simplement déplacée à l'internet où on va visiter tous les sites web et puis on va trouver en fait toutes sortes de troubles que l'on a. Et ça peut aussi provoquer donc un état émotionnel, une réaction émotionnelle importante alors que derrière son écran il y aura personne. Au niveau des blogs et des groupes de discussion, donc là on assiste à un nouveau phénomène, puisque les blogs, on sait qu'il y a à peu près 120 000 nouveaux blogs par jour, mais il y en a 45% qui tombent au bout de 3 mois. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens ont besoin de parler de leurs troubles. Ce qu'on voit au niveau des événements traumatiques, toujours, si on prend l'exemple des créations de blogs avec après les attentats de Londres et Katrina, on s'aperçoit qu'il y a un pic de création de blogs à chaque fois, en fait. Alors, et donc, il y a évidemment les blogs aussi qui sont écrits par les cliniciens ou par les chercheurs. Camillo vient juste de nous en parler, donc on va passer rapidement. Le phénomène pourrait se situer autour des sites de réseaux sociaux comme Facebook, où on voit, en fait, que pour chaque trouble psychologique, il y a plus de 500 groupes de discussion qui existent. Donc ça fait des milliers de personnes qui discutent de leurs troubles entre eux. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des études qui ont montré que les personnes parler davantage sur Internet, parce que justement, elles n'ont pas peur du stigma et pensent parfois qu'elles sont anonymes. Du coup, elles vont davantage se dévoiler sur l'Internet. Cependant, on sait maintenant qu'il y a un véritable problème de sécurité des données personnelles. C'est-à-dire que les gens ne font pas forcément attention aux informations qu'ils diffusent sur l'Internet et il devient très facile de regarder sur un groupe de discussion, par exemple, qui parle de dépression. Si quelqu'un pose un post, il sera très facile de cliquer sur le nom de la personne et de regarder son profil Facebook. Voilà. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que si donc beaucoup de personnes vont discuter sur ces groupes, il y a aussi des groupes qui pourraient, au contraire, affecter davantage ces personnes comme des groupes de discussion pro-suicide ou pro-scarification, par exemple, pour les pro-suicides, vont accompagner les personnes et les encourager à suicider. Alors, il y a autre chose qui est important aussi, c'est que sur ces groupes de discussion, généralement de patients, de personnes qui ont des troubles, il y a très, 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 très peu de professionnels de santé mentale. Alors, juste un mot sur Yahoo Answers. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un site web, en fait, très populaire, où on pose des questions. Ça peut être comment faire une recette de cuisine. Il y a plein de gens qui vont répondre. Et après, il y aura les internautes qui vont coter, en fait, la meilleure réponse, qui vont proposer la meilleure réponse avec un système de vote. Alors, ce système-là marche aussi pour les troubles de santé mentaux, puisque nous avons vu qu'en 2010, il y avait à peu près 9000 personnes qui avaient posé des questions sur le trouble de stress post-traumatique, 115 000 sur l'anxiété, 176 000 sur la dépression, et ainsi de suite, en fait. Donc, le problème, c'est toujours la fiabilité de l'information, parce que les personnes qui vont répondre ne seront pas forcément des professionnels ou vont pas forcément diffuser de l'information de qualité, et les votes n'iront pas forcément vers une information de qualité. Pour Facebook, donc, il y a ce que je disais, c'est il y a plus de 500 groupes par trouble psychopathologique. Et si on regarde simplement le nombre de membres dans les 10 premiers groupes pour chaque trouble, on voit qu'il y avait en 2009 2202 personnes pour le trouble de stress post-traumatique et à peu près 176 000 sur l'autisme. Donc on assiste à un véritable phénomène qui grandit, puisque si on prend l'exemple du trouble de stress post-traumatique, on voit que il y avait à peu près 443 groupes donc en juillet 2009. Aujourd'hui, il y en a plus de 500. Les comptes de Facebook s'arrêtent à 500, en fait. Les nombres de membres dans les 10 premiers groupes seulement, sur ces 500-là, il y en avait 2202 en juillet 2009. Et en mars 2010, il y en a 21 000. Vous voyez, on assiste vraiment à un phénomène exponentiel. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, de ce qu'on peut trouver hein, de page Facebook sur le PTSD. Mais il y a aussi Twitter, maintenant, de plus en plus, il y a des pages sur l'autisme, sur les troubles bipolaires, sur la dépression, etc. Juste un mot sur les cliniciens, par exemple, qui sont sur Facebook aussi. Donc, il y en a beaucoup qui ont des pages personnelles ou des pages professionnelles. Mais pour les pages personnelles, juste un mot pour rappeler, en fait, que là aussi, il y aura un problème de données personnelles. C'est-à-dire que si vous ne protégez pas votre site, ça peut être délicat qu'un patient vienne sur le site de son psychologue et regarde ses photos de vacances ou lui demande d'être son ami ou des choses comme ça. Donc, et là, les règles éthiques, en fait, s'appliquent toujours, hein, celles de l'OPQ, de l'APA ou du CPA. Les thérapies en ligne. Donc, les thérapies en ligne, il y en a de différentes sortes, comme vous le savez probablement. Donc, par email, par vidéoconférence, par chat, des programmes donc synchronisés ou asynchronisés, et dans le monde virtuel. Alors, par exemple, dans le monde virtuel, on sait que sur Second Life, par exemple, il y a de plus en plus de troubles qui sont traités comme Asperger, où ça donne de très bons résultats, la schizophrénie, les phobies, le PTSD, etc. Alors, on assiste aussi depuis très très peu à un nouveau phénomène, en fait, c'est les applications mobiles sur les iPads, iPhone et compagnie. J'ai simplement regardé, en fait, il y a 3 mois, il y avait très très peu d'applications sur les troubles de santé mentaux. Et il y a une semaine à peu près, j'ai regardé, il y en avait des centaines. Donc, c'est un phénomène qui est à prendre en considération. Il y a donc de tout. Il y a des applications qui ont été créées par monsieur et madame tout le monde. Et puis, il y a des applications qui ont été créées par des centres de recherche, comme par exemple le NCPTSD avec les militaires américains. qui ont créé une application qui s'appelle After Deployment, où ils peuvent suivre, en fait, donc partout dans le monde, les militaires qui sont déployés un petit peu partout. Et donc, à ce moment-là, ils peuvent recevoir de l'information sur leurs troubles, voire même une aide en ligne. Alors, au niveau des thérapies en ligne, donc, il y a plusieurs études qui ont démontré qu'il y avait un résultat significatif en termes de réduction des symptômes, une alliance thérapeutique assez forte, peu de drop-out et un effet qui semblait se maintenir avec le temps. Alors, le problème, il y en a deux, en tout cas. C'est que quand on fait des études et qu'on demande aux patients si, oui ou non, ils ont aimé ce style de thérapie, bah, ils disent oui, mais pour beaucoup, en tout cas la majorité, regrette un manque d'interaction humaine. Et ça, on va le retrouver, en fait, à toutes les applications. Alors, il y a un autre problème avec ces études, c'est que souvent, la validité externe est assez faible. Donc, il faudrait, bien entendu, faire davantage d'études pour vérifier l'efficacité de ces thérapies. Et puis, également, les comparer davantage à des thérapies plus classiques, en fait, en face à face. Pour l'instant, elles sont davantage comparées à des waiting lists ou des groupes de support. Donc, les problèmes aussi en thérapie en ligne, ça peut être les sources de confusion, parce que c'est pas toujours évident. On a souvent un manque d'informations sur les comportements non-verbaux, par exemple. Il peut y avoir un problème de confidentialité aussi, si le site web qui diffuse de la thérapie en ligne n'est pas suffisamment sécurisé. Il y a aussi donc des risques suicidaires. Donc, comme toutes les thérapies, il faut suivre, bien sûr, faut appliquer les règlements éthiques. Alors, au niveau des cours en ligne aussi, sur la santé mentale, il y en a de plus en plus. On sait que, il y a 3,5 millions d'étudiants américains par an qui prennent un cours. Il y a de plus en plus d'universités qui sont sur iTunes U aussi. Alors, j'ai la joie de vous dire que notre laboratoire, donc, a créé le premier cours complètement en ligne de l'Université McGill et qui sera d'ici un mois, en fait, sur le site de McGill. Et donc, c'est un cours d'introduction aux troubles de stress post-traumatique. Donc, il pourra être donné partout dans le monde, y compris pour former des personnes dans des pays lointains où il y a eu des tremblements de terre ou des choses comme ça. Donc, la même chose pour les cours en ligne. C'est apprécié par les étudiants, mais souvent, ils regrettent un manque d'interaction humaine. Alors, la même chose aussi, on assiste à un déplacement de l'Internet vers toutes les iPads, iPhones, etc. On appelle ça le M-learning, où en fait les étudiants peuvent apprendre tout le temps, y compris dans le métro. Il y a l'université de Stanford aussi qui s'intéresse de plus en plus à l'Internet, dont Facebook, où il y a le cours très populaire sur la psychologie de Facebook. Et il y a également maintenant des cours sur le monde virtuel de Second Life. Vous pouvez même trouver la bibliothèque de McGill sur Second Life. Alors, au niveau de la recherche, deux mots parce qu'il me reste deux minutes, je crois. Donc, il y a de plus en plus de chercheurs qui utilisent l'Internet donc pour faire de la recherche. Alors pourquoi? Parce que déjà, ça permet généralement de réduire les coûts, d'avoir une taille échantillonnale beaucoup plus grande. Ça donne des résultats généralement assez similaires aux études classiques. Cependant, l'un des problèmes, c'est que les participants s'auto-sélectionnent donc dans la plupart des études. Et donc, on ne peut pas faire d'études représentatives. Donc là, il faudra faire des études cas témoins pour comparer en fait des variables seulement, pour l'instant, du moins. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus d'outils qui sont développés pour faire davantage de recherches différentes. Par exemple, on peut faire des recherches maintenant longitudinales à Montréal, puisqu'il y a Google ou Facebook qui permettent de géolocaliser le bassin en fait où on souhaite rechercher, et même d'utiliser certains filtres comme l'âge, le sexe, les intérêts, etc. Alors, je vais conclure. En deux mots, l'Internet, vous savez, il n'y a pas de contrôle, donc il y a des choses très très bien qui se font, d'autres choses beaucoup moins bien. Je pense juste que il faudrait que les professionnels de santé mentale s'investissent davantage en fait sur l'Internet, parce que je pense que les personnes qui ont des troubles de santé mentale vont beaucoup plus vite que nous. Et donc, quoi qu'il se passe, les choses se créent. Par exemple, quand on regarde qu'il y a 500 groupes sur Facebook pour n'importe quelle psychopathologie. Encore, quand je dis 500 groupes, c'est probablement plus. Donc ça peut ouvrir des avenues en termes de santé publique, en termes de recherche aussi, où on va pouvoir faire des recherches qui n'étaient pas possibles avant. Mais je pense qu'il faut d'abord aller vers une combinaison en fait de l'internet et des méthodes classiques plutôt que simplement l'internet, puisque on voit que dans tous les domaines, les personnes regrettent toujours le manque d'interaction humaine, même si elles trouvent que l'internet apporte quelque chose de plus. Donc il va falloir travailler davantage sur des combinaisons en fait qui peuvent s'appliquer. Voilà. Donc j'espère que j'ai respecté à peu près le temps. J'ai sauté un petit peu de. Voilà, donc je vous remercie.
Beaucoup, Christophe.